Crédit Immobilier, le prêt longue durée de Banque Atlantique pour acquérir, construire ou rénover votre logement à taux exceptionnel, vous propose l'émission Appel sur l'actualité.
Banque Atlantique, grandir ensemble.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Appelez-nous, exprimez-vous, merci d'être avec nous dans 30 minutes, la Libre Antenne. Nous sommes vendredi, profitez-en évidemment pour commenter l'actualité de votre choix. En tout cas, ce matin, vous êtes plusieurs à nous appeler du Bénin après la décision hier de la Cour constitutionnelle d'autoriser le parti d'opposition, les démocrates, à participer aux élections législatives. Des réactions également sur les affrontements entre l'armée et les rebelles du M23 dans l'est de la RDC, sur la situation au Tchad, un mois quasiment jour pour jour après les violences du 20 octobre. On nous interpelle également sur la COP27 et ses conséquences, les transitions énergétiques, etc. On en parlera. Il y a quelques coups de gueule au standard ce matin. Et puis on parlera football. On est à deux jours du coup d'envoi de la Coupe du Monde. Et ce coup dur pour le Sénégal, Sadio Mané, officiellement forfait pour la compétition. Une annonce qui, à en croire ce qui m'arrive du standard et ce que je lis sur la page Facebook de l'émission, une annonce qui ne vous laisse pas indifférent. Voilà donc un aperçu de la Libre Antenne. Vous continuez à nous rejoindre, évidemment. 33 9 693 693 70. Mais d'abord, ce sont vos questions à la rédaction, vos questions sur l'actualité. Et on va commencer en parlant de cette décoration qui est loin de faire l'unanimité au Mali. Bonjour Kassoum.
Bonjour Juan, bonjour aux auditeurs de la RFI.
Et merci de nous appeler de Bamako, où vous nous écoutez grâce à un VPN. Quelles sont vos questions, Kassoum ?
Oui, comme vous le disiez tout à l'heure, Juan, mes questions sont sur cette décoration de Oka Oka. Mm-hmm. Je voudrais savoir comment l'État malien justifie-t-il la décision de décorer Oka Oka à Kalousseni, pourtant sanctionné par l'ONU en 2012 pour avoir ossifié pour les djihadistes.
Ouais, Oka Oka, ancien juge islamique de Tombouctou lorsque la ville était occupée par les djihadistes en 2012. Et effectivement, depuis maintenant 3 ans, il figure sur la liste des Nations Unies des personnes qui entravent le processus de paix au Mali. Bonjour Serge Daniel.
Juan, bonjour.
Correspondant régional de RFI pour le Sahel, en direct de nos studios de Dakar. Oka Oka a donc reçu des mains du gouverneur de Tombouctou ce diplôme de reconnaissance. Comment expliquer une telle distinction ?
Alors, depuis l'éclatement de ce qu'il faut appeler l'affaire Oka Oka, du nom de l'ancien juge islamique de Tombouctou sous l'administration djihadiste, il n'y a pas de réaction officielle. Mais on peut faire des observations très facilement, Juan, parce que le diplôme qui lui a été décerné à Oka Oka, comme à d'autres, il est mentionné sur ce diplôme, je cite, pour service rendu à la nation et dans le cadre du retour à la paix et à la stabilité du pays. Fin de citation. C'est une indication pour dire que la paix est encore fragile dans la région de Tombouctou comme ailleurs. C'est un euphémisme. Exemple, par mesure de sécurité, tous les préfets et sous-préfets, administrateurs, juges de la région de nord-ouest du Mali sont basés à Tombouctou, capitale régionale, plus importante ville, sous haute protection de l'armée. Alors, Oka Oka est influent. Il peut faire le pont entre djihadistes qu'il fréquente toujours et l'administration locale pour obtenir, par exemple, une paix des braves, pour notamment permettre la réouverture des écoles. Donc, les autorités locales de Tombouctou, adoubées probablement par Bamako, en tout cas pour le moment, donc les autorités de Tombouctou mettent en place des dynamiques locales, je dirais, pour aller vers la paix, pour obtenir la réouverture des écoles fermées du fait de la crise. Il faut rappeler quand même que dans la région, Juan, dans la région de Tombouctou, par exemple, sur environ 700 écoles, vous avez plus de 200 écoles fermées.
Et Oka Oka fixe ces conditions justement pour la réouverture des écoles, Kassoum ?
Oui, avec cette reconnaissance, Oka Oka pourrait-il appliquer son programme pour l'école, notamment l'enseignement du Coran et la séparation garçons-filles.
Oui, il exige notamment que les filles soient enseignées par des femmes et les garçons par des hommes. Va-t-il obtenir gain de cause, Serge Daniel ?
En tout cas, le côté donnant-donnant de l'affaire arrange Oka-Oka et les autorités. C'est-à-dire, je vous aide à sécuriser la réouverture des écoles, mais en retour, l'enseignement coranique, avec notamment la séparation des élèves de sexe opposé dans les classes, reste une obligation. D'ailleurs, après lors de la cérémonie de remise du diplôme de reconnaissance, le gouverneur de région n'a pas réagi lorsque le récipiendaire a déclaré, c'est une traduction de ses propos tenu en arabe, pour le bien-être des populations, nous avons confiance au gouverneur et nous lui demandons de respecter les piliers de l'islam, fin de citation. Mais bon, l'affaire n'est peut-être pas terminée parce qu'à Tombouctou, la cité des 333 saints, même lors d'un récent forum, des voix se sont levées pour dénoncer cette reconnaissance décernée à des mains, c'est une citation, à des mains tachées de sang et qui ont pris les armes contre le Mali. Et d'autres ont rappelé que le Mali est quand même un État laïque.
Oui, et puis cette semaine, dans un communiqué conjoint, 37 organisations de la société civile ont condamné ce diplôme de reconnaissance décerné donc à cet ancien juge islamique, et ces ONG exigent que cette distinction lui soit retiré. Serge Daniel, merci infiniment d'avoir été avec nous. Kassoum, on a répondu à vos questions ?
Oui, mes questions ont été répondues. Merci.
Et merci
à Serge Daniel.
Oui, et merci de vos encouragements, de votre fidélité à Bamako. Continuez à nous écouter sur, grâce à un VPN. Serge Daniel, correspondant régional de RFI sur le Sahel, en direct de nos studios de Dakar. Et j'en profite également pour saluer Saliou Diao pour les moyens techniques sur place dans la capitale sénégalaise. Il est 9h17 ici à Paris. D'autres questions ? Ah, je suis ravi de retrouver ce matin Guy Cédric. Comment allez-vous, Guy Cédric ?
Oui, je vais assez bien, Juan.
Bon.
Merci à vous.
Et merci à vous d'avoir patienté hier. On n'a pas pu vraiment vous prendre à l'antenne, juste quelques secondes, faute de temps. Ce matin, comme promis, on vous a donc rappelé, vous avez des questions concernant l'avenir de la MINUSMA, la mission des Nations Unies au Mali.
Effectivement, Juan. Le Royaume-Uni et la Côte d'Ivoire ont annoncé le retrait de leurs soldats de la MINUSMA. Voilà. Comment expliquer ces deux retraits successifs et quelles conséquences cela peut-il y avoir sur la situation sécuritaire ?
Oui, effectivement. Lundi, le Royaume-Uni a annoncé le retrait de ses 300 militaires. Le lendemain, c'est la Côte d'Ivoire qui a confirmé le retrait progressif de ses 900 casques bleus. Bonjour Niagale Bagayoko.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes la présidente du réseau africain pour le secteur de la sécurité. Avez-vous été surprise par la décision de Londres et d'Abidjan ?
Non, je n'ai pas vraiment été surprise, mais il convient de distinguer les deux cas, les motivations de cette décision pour chacun des deux pays étant différentes. Pour ce qui concerne le Royaume-Uni, on est plutôt dans une position qui concerne, d'une manière générale, tous les pays européens participants qui ont de forts doutes quant à l'opportunité de rester engagé face aux difficultés de mouvement auxquelles est confrontée la force, aussi bien en ce qui concerne les rotations qu'en ce qui concerne les patrouilles au sol ou dans les airs, ou encore les missions d'enquête de la division des droits de l'homme. Pour ce qui est de la Côte d'Ivoire, le cas est sensiblement différent et plus politiquement engageant dans la mesure où on se souvient qu'il y a toujours ce contentieux majeur entre le Mali et la Côte d'Ivoire avec ces fameux 46 soldats ivoiriens qui sont toujours détenus à Bamako et accusés de mercenariat en raison d'un déploiement qui s'est fait en dehors des règles fixées pour le soutien au contingent. Ce ne sont pas des soldats à proprement parler de la force, de la MINUSMA. Et donc, c'est ce qui motive l'annonce du retrait du côté d'Abidjan.
Et quelles conséquences peuvent avoir ces différents retraits, en sachant que la Suède s'est déjà retirée, que l'Allemagne, à un moment donné, a menacé de se retirer, que les Égyptiens ont momentanément suspendu leur participation? Ça se répercute sur le terrain ?
Oui, bien entendu. Alors, l'Allemagne a en effet menacé de se retirer. Il semble qu'elle soit prête à annoncer elle aussi son retrait la semaine prochaine, d'ici la fin de l'année 2023. Les Suédois se retireront d'ici février, etc. Le cas des Égyptiens est un peu différent parce qu'ils avaient mis en cause le problème de sécurité qui touchait précisément leurs forces. Il faut se souvenir que la France, l'opération Barkhane, assurait la protection de la force de la MINUSMA. Et depuis son retrait, il n'y a plus de force déployée pour l'assurer. Ce qui est certain, c'est qu'on se trouve avec une mission qui n'a pas un soutien politique affirmé par les autorités du pays hôte. Les autorités maliennes ayant fait savoir, dès l'adoption du mandat, qu'elles n'en appliqueraient pas un certain nombre de dispositions. Ils ont, côté malien, redéfini notamment les règles de rotation, ce qui entrave la liberté de mouvement. Et donc, à mon avis, il s'agit d'une mission qui est relativement compromise à moyen terme, d'autant plus que les populations, l'opinion publique, peinent à voir la façon dont elles contribuent de manière décisive à leur propre sécurité.
Mmh. Bon, on comprend bien en écoutant votre analyse, Niagale Bagayoko, que l'avenir des 13 000 casques bleus déployés au Mali est compromis. Merci infiniment d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes la présidente du réseau africain pour le secteur de la sécurité. Je remercie infiniment Guy Cédric de nous avoir contacté d'Abidjan, où il est 8h21. On repasse au standard, 33 9 693 693 70. Des questions maintenant sur le sort des Français détenus en Iran. Bonjour Barka.
Bonjour Monsieur Juan Gomez.
Merci de nous appeler.
Et bonjour à tous les autres.
Allez-y.
De RFI.
Ouais, pardon, je vous ai interrompu dans vos salutations. Barka, vous êtes à Maroua au Cameroun. Soyez le bienvenu, nous vous écoutons.
D'accord Monsieur Juan. La semaine dernière, on a appris que deux des ressortissants français ont été arrêtés en Iran, ce qui rend le nombre d'otages français dans ce pays à 7. Ma première question est de savoir quelles sont les motivations de l'Iran derrière cette prise d'otages et pourquoi les relations entre ces deux pays sont-elles mauvaises.
Oui, 7 Français ou franco-iraniens sont détenus en Iran. La France parle d'otages d'État. Bonjour Nasser Etemadi.
Bonjour Juan.
Merci de nous rejoindre. Vous êtes journaliste à la rédaction en langue persane de RFI. Le président Macron, mercredi, en marge du G20 en Indonésie, a dénoncé, je cite, des prises d'otages inadmissibles. Quelles sont les motivations de Téhéran?
En fait, Juan, les motivations... Le régime iranien a mené cette politique varie en fonction du temps, du contexte et des enjeux politiques. Mais il s'agit à chaque fois d'un moyen de pression et de chantage pour parvenir à ses fins, moyennant en fait de la violence, moyennant de l'intimidation et moyennant de la prise en otage des simples citoyens. Les 7 citoyens qui sont pris en otage, disons les mots tels qu'ils sont, ce sont les universitaires, chercheurs ou simples citoyens touristes qui se sont rendus en Iran. Ils ont été accusés...
Ils sont accusés par Téhéran d'être des espions.
Des espions, d'atteinte à la sécurité nationale et par les tribunaux révolutionnaires et dans le mépris total de droits les plus élémentaires des détenus.
Ouais. C'est en prenant des Occidentaux en otage, parce qu'il n'y a pas que des Français, il y aurait une vingtaine d'Occidentaux en ce moment.
Il y a des Suédois, des Allemands, oui. Des Américains, etc.
Retenus en Iran. C'est un moyen pour les autorités de Téhéran de s'imposer.
De s'imposer.
Et de réclamer des...
Oui, d'arriver toujours à ses objectifs. Ses objectifs sont différents. Il fut un temps, par exemple, c'était dans le cadre des négociations pour arriver à un accord nucléaire avec Téhéran. C'était un moyen d'exercice de pression sur la France, qui avait une position ferme en la matière, par exemple. Et récemment, c'était dans le cadre de procès d'un responsable iranien impliqué dans le mort de centaines de prisonniers politiques en Iran dans les années 80.
Barka, une autre question à vous poser, Nasser Etemadi. Barka.
D'accord. La France peut-elle prendre des sanctions contre l'Iran en réaction?
Alors, des sanctions, Emmanuel Macron s'est exprimé chez nos confrères de France Inter, c'était en début de semaine, il s'est dit favorable à de nouvelles sanctions et des sanctions ciblées.
Bien sûr, des sanctions ciblées, et d'ailleurs, la France exerce ces sanctions depuis longtemps, dans le cadre européen ou international. Elle vient d'être renforcée suite à la répression de la révolte en cours en Iran. La question est de savoir, est-elle suffisante ? Elles sont en fait efficaces. Donc, moi, je doute... personnellement. Je doute personnellement parce que la prise en otage, l'exercice de l'intimidation, c'est un moyen pour le régime iranien pour parvenir à ses fins. Mais en même temps, on a affaire à un régime exceptionnel avec qui on a voulu en fait avoir en Occident une relation dans le cadre des normes internationales. Or, le régime iranien, ce n'est pas un régime comme les autres, c'est un régime exceptionnel qui a pour violence comme moyen en fait d'expression pour parvenir à ses fins politiques.
Barka, a-t-on répondu à vos questions ?
Je suis satisfait, Monsieur Wan, et merci à votre expert.
Nasser Etemadi, journaliste à la rédaction en langue persane de RFI. Bonne journée à tous les deux.
Merci, Juan, de m'avoir invité.
Nasser. Je vous en prie, c'est normal. Et à bientôt, Barka, vous rappelez quand vous le souhaitez, bien évidemment. C'est le dernier auditeur de la semaine, pour la première partie, pour les questions, bien évidemment. Dans 10 minutes, je vous le rappelle, il y a la libre antenne. Jean-Pierre, soyez le bienvenu.
Bonjour, Juan.
Bonjour, Jean-Pierre. Je vois sur ma petite fiche du Standard que c'est votre première participation dans l'émission.
Effectivement, Juan, et j'en suis ravi.
Eh bien, nous aussi, on vous écoute. Vous êtes à Douala, au Cameroun. Vous avez des questions concernant ce fameux missile qui a explosé à quelques kilomètres de la frontière ukrainienne en Pologne.
Exactement, Juan. L'actualité de la guerre en Ukraine actuellement est marquée depuis quelques jours par cette explosion qui aurait fait 2 morts de l'autre côté de la frontière polonaise. Et cet événement-là me suscite une seule question. Alors que l'OTAN affirme que le missile qui a frappé la Pologne est ukrainien, le président Volodymyr Zelensky contredit cette version. Sur quels éléments est-ce qu'il se base pour affirmer que ce missile est russe ?
Ah, bonne question. Quoiqu'hier, le président ukrainien a un peu tempéré ses propos. Bonjour Jean-Sylvestre Montgrenier.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes chercheur à l'Institut Thomas More, qui est un laboratoire d'idées. On vous doit notamment cet ouvrage publié aux presses universitaires de France, Le Monde vu de Moscou, géopolitique de la Russie et de l'Eurasie post-soviétique. On a bien vu le président Zelensky ces derniers jours en désaccord avec ses alliés.
Oui, l'origine de ce missile. Là, mais alors, d'abord, c'est vrai, vous l'avez rappelé, il a fait un rétropédalage, ou plutôt il a nuancé ses propos dernièrement, d'une part. D'autre part, ce sur quoi je voudrais quand même insister, c'est que quand on regarde de plus près les déclarations des représentants des pays de l'OTAN, ça n'est pas aussi affirmatif que cela. Si je me reporte à Joe Biden, quelques heures après, ce qu'il a dit, c'est « rien ne vient contredire la thèse selon laquelle », et après on prolonge la lecture à des articles, à des analyses. On s'aperçoit que l'enquête est encore en cours. Oui. Il y a un faisceau de présomptions qui laisse à penser que ça serait un missile ukrainien, mais ce n'est pas quelque chose de définitif. Et je pense que le président ukrainien, comme beaucoup d'Ukrainiens, n'ont peut-être pas apprécié que la conclusion soit si rapidement apportée pour des raisons de haute politique. Ce que j'appelle la haute politique, c'est la conduite diplomatique et stratégique des nations. Et
mais donc, excusez-moi, mais Jean-Sylvestre Montgrenier, j'entends votre analyse, mais quand on voit que le président polonais, Joe Biden, vous le citiez à l'instant, l'OTAN, les alliés de l'Ukraine à l'unanimité sont quasiment convaincus à 100%, certes l'enquête est en cours, mais que ce missile n'a pas été tiré depuis la Russie. Est-ce que le président Zelensky, finalement, n'a pas parlé trop vite ?
Ah, il a certainement parlé trop vite, parce que c'est sûr que dans ce type de situation, il faut faire preuve de sang-froid et il faut garder le temps de l'analyse. Mais quasiment à 100%, vous avouerez que c'est une contradiction dans les termes. Il y a surtout une volonté de la part des pays membres d'éviter toute escalade, parce qu'il est sûr que si c'était un missile russe, là, ça pose un autre problème, puisque c'est le territoire d'un État membre de l'OTAN qui est atteint. Alors peut-être accidentellement, mais on ne peut pas traiter fait ça par-dessus la jambe.
Alors justement, on a 30 secondes et ça pointe du doigt tout de même la fragilité du système de défense anti-aérienne de l'OTAN, puisqu'on a un missile qui a pu entrer dans l'espace aérien de l'OTAN, puisque la Pologne est membre de l'OTAN.
Oui, tout à fait. C'est le problème stratégique de fond, et ça suscite un certain nombre d'interrogations. Et donc on a l'Allemagne qui a proposé à la Pologne d'organiser des patrouilles aériennes communes sur les frontières orientales de la Pologne. Bon, l'Allemagne, on peut penser qu'elle en profite aussi pour pousser son projet de bouclier du ciel, lequel elle veut rallier le maximum de pays membres de l'OTAN. Mais c'est vrai que la défense antimissile, la défense antiaérienne de l'OTAN, qui existe.
Elle existe, mais on voit bien que ça pose question tout de même. Merci infiniment d'avoir été avec nous, Jean-Sylvestre Mongrenier.